Bonjour à tous, aujourd'hui nous cédons à l'appel de la culture.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme elles sont nombreuses, les villes qui ont cherché à reproduire l'effet Bilbao, la cité espagnole, territoire en déclin devenu un pôle culturel attractif, fait figure de modèle depuis la fin des années 90. La création du spectaculaire musée Guggenheim a permis la renaissance de cette ancienne ville industrielle. La culture devient alors un levier de développement économique et de nouveaux projets fleurissent un peu partout en France. Mais à qui profitent vraiment ces initiatives ? Ont-elles permis d'attirer des publics éloignés ? Et comment les villes tentent-elles de se démarquer ? Voilà les questions qui vont nous occuper en cette journée spéciale consacrée au territoire de la culture. Nous sommes à un mois des élections municipales. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Dans ce premier épisode de notre série consacrée aux villes en campagne, nous accueillons aujourd'hui Maria Gravary-Barbas, professeure de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice de la chaire UNESCO Culture Tourisme Développement. Avec nous également en duplex de Montpellier, Emmanuel Négrier, directeur de recherche au CNRS et co-auteur avec Philippe Théier de cet ouvrage « Les projets culturels de territoire » paru aux presses universitaires de Grenoble. À 14h50, les nouvelles de l'écho vous seront présentées comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Emmanuel Négrier et Maria Gravary-Barbas.
Bonjour.
Bonjour.
Je dois partir dans le Nord-Pas-de-Calais, une mutation. Et Julie m'a dit que vous connaissiez bien la région près de Lille. Et c'est comment la vie là-bas, tous les jours ? Je veux dire, c'est tranquille, non ?
Dur. Il n'y a que ceux qui sont dans le charbon qui vivent bien. Les autres, c'est que des miséreux. Puis ça meurt jeune là-bas, ça meurt très jeune. Heureusement, ma mère est redescendue dans le sud. J'avais 10 ans, je supportais plus le froid.
Il fait très froid.
Oh! En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend. -10, -20, -20, -30. Tu dis, je reste couché, il te fout du -40, tu vois?
-40?
C'est le Nord.
Vous avez reconnu Bienvenue chez les Ch'tis, le film de Danny Boone, qui avait été accusé au moment de sa sortie en 2008 de stigmatiser toute une région, le Nord-Pas-de-Calais. Il faut dire, Maria Gravary-Barbas, que l'image véhiculée dans les médias ou dans la fiction est un enjeu central pour les villes et les territoires.
L'image est extrêmement importante, elle est centrale. Et effectivement, les villes ont tenté au cours des dernières années d'échanger et de modifier cette image qui parfois est imprimée depuis fort longtemps. Et c'est vrai que la culture est un véhicule assez extraordinaire pour cela. Vous avez évoqué le Nord, Lille est un exemple assez extraordinaire d'une ville qui s'est emparée de la culture pour se créer vraiment une autre personnalité. Et là, des événements comme les capitales culturelles, par exemple, c'est aussi un véhicule extraordinaire pour construire non pas qu'une éphéméralité, c'est-à-dire un moment très précis dans le temps où tout change, mais de construire là-dessus de façon durable. Oui, clairement, l'image est centrale, capitale.
La culture, c'est ce qui permet à la fois d'attirer davantage de visiteurs, c'est ce qu'on va voir Emmanuel Négrier, mais aussi de communiquer éventuellement sur toute une région, comme ça a été le cas pour Bienvenue chez les Ch'tis, puisque d'une certaine façon, ça a été une communication positive, si je puis dire, puisque à la fin, il y a eu 35 000 visiteurs qui se sont rendus dans le Nord Pas-de-Calais, l'année de la sortie du film, 4 fois plus que l'année précédente.
Oui, en effet, c'est un paradoxe d'ailleurs, puisque l'image qui est donnée dans ce film du Nord n'est pas forcément, en fait, selon les codes des politiques dites d'attractivité. Et là, effectivement, on voit toute la complexité de cette notion d'image, puisque aussi bien les images politiques sont-elles très très anciennes. Depuis très longtemps, on fait campagne pour améliorer son image en vue d'être élu. Pour les territoires, c'est beaucoup plus récent, finalement, vers la fin du 20e siècle, dans les années 70. À l'échelle historique, c'est très récent que des territoires deviennent objets de politique d'image.
Et ça peut aller très loin, puisqu'il y a un autre exemple qui montre que l'attractivité dépend largement des représentations. Le maire de Charleville-Mézières a attaqué la série Plus belle la vie pour diffamation après un épisode où l'un des personnages critiquait la ville, disant que c'était de la maltraitance que d'emmener des collégiens là-bas. Donc on voit que les villes n'hésitent plus à aller en justice, Maria Gravary-Barbas.
Oui, bien sûr, parce que les enjeux sont considérables. Les enjeux sont considérables et une ville sait aujourd'hui que si cette image n'est pas retravaillée d'une certaine façon, eh bien, c'est vrai qu'il est très difficile de renverser la perception à la fois localement et de façon plus générale. L'enjeu touristique est important, mais il ne faut pas négliger le rôle que cette image, parfois négative, peut jouer auprès des populations locales. Pour prendre un autre exemple, comme Le Havre, qui me semble vraiment une ville qui a fait un travail extraordinaire au niveau de son image et de façon plus générale sur une évolution positive sur laquelle cette nouvelle image a été construite. Un des objectifs majeurs était vraiment de retravailler cette image locale. Puisque sans cette adhésion locale, il est très difficile de construire une image positive plus générale.
On va revenir sur cet exemple extrêmement emblématique du Havre, en effet, mais peut-être qu'il faut d'abord définir, Emmanuel Négrier, cette notion d'attractivité en économie. Pourquoi est-ce qu'on parle d'attractivité d'un territoire et pas de compétitivité, par exemple ?
Parce que la notion d'attractivité est beaucoup plus large, on pourrait la définir comme une capacité d'un espace à démontrer des qualités matérielles et immatérielles, mesurables et peu mesurables, au service de nouvelles localisations, d'opérateurs, de résidents, selon les cas. Dans le cas du tourisme, la dimension des résidents est également très importante. C'est une notion qui remonte là aussi aux années 70, à partir du moment où, d'une certaine façon, les espaces n'avaient plus leur localisation économique obligée par le fait d'être à proximité de matières premières, par exemple, ou à proximité de grandes infrastructures de transport. Mmh. À partir de ce moment-là, à partir de ce qu'on a appelé aussi l'économie des services, eh bien, rien n'oblige un opérateur économique à s'installer ici ou là, et ça a été encore plus vrai à partir du moment où on a vu une forme de dématérialisation des échanges de communication avec Internet en particulier. Du coup, effectivement, pour attirer les cadres, pour attirer les décideurs d'entreprise, l'attractivité est quelque chose de beaucoup plus complet, complexe et porteur que la stricte notion de compétitivité économique.
Et on s'est rendu compte que la culture était un facteur d'attractivité, de développement important des territoires, Maria Gravary-Barbas, à un moment effectivement de désindustrialisation, absolument, de développement des services.
Absolument, je pense que la désindustrialisation a totalement changé la donne. Et elle a fait en sorte à ce que les villes qui reposaient sur une culture, sur une économie parfois construite depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, a été totalement mise en cause. Et donc, les services et la culture et le tourisme sont découverts comme des alternatives possibles. Après, et vous avez commencé en évoquant l'exemple de Bilbao, ce n'est pas parce qu'on veut qu'on peut.
Le musée Guggenheim qui a été inauguré donc en 1997.
Voilà, qui a été quelque part le fantasme absolu de tous les maires en France et en Europe de façon plus générale. Or, on a vu que quand on fait le tour un peu de la question en Europe, il n'y a pas véritablement plusieurs autres Bilbao. Cela a été quelque part un cas unique. Et on voit que cette transformation finalement de l'économie initialement basée sur les activités portuaires, industrielles, qui maintenant s'oriente vers la culture ou vers le tourisme, elle n'est pas toujours facile à achever. Elle dépend de tout un ensemble de choses, des véritables écosystèmes locaux qui n'existent pas partout.
Mais comment on explique effectivement que ça ait marché pour Bilbao et que ça n'ait pas tellement marché pour ce qu'on appelle les villes créatives, les autres villes créatives qui ont voulu imiter Bilbao?
Alors, à Bilbao, on sait très bien pourquoi cela a marché. Dans les autres villes, on sait aussi pourquoi cela n'a pas marché. Les raisons ne sont pas toujours les mêmes. Les raisons de l'échec ne sont pas les mêmes dans les différentes villes. Dans les cas de Bilbao, on sait que cela a marché parce qu'il y avait une gouvernance locale, régionale et nationale qui a été mise en place de façon exemplaire, parce qu'il y avait des ressources quand même. On était dans une région qui était désindustrialisée mais qui était encore très prospère. On était dans un centre de décision qui pouvait effectivement mener jusqu'au terme les projets qu'ils implémentaient. Et finalement, je veux dire, le musée Bilbao n'est que la cerise sur les gâteaux mais le gâteau lui-même est un projet urbain d'une énorme envergure, extrêmement complexe, extrêmement ambitieux, qui, certes, sans le musée Bilbao, aurait été beaucoup moins visible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas et qu'il n'est pas véritablement important et conséquent.
Emmanuel Négrier, on s'est rapidement rendu compte que cet effet Bilbao peut-être n'existait pas ou était principalement un fantasme.
Surtout, si on fait un retour sociologique sur Bilbao, on se rend compte aussi que le succès de l'entreprise, son rayonnement international et sa qualification dans le secteur des arts contemporains, on va dire, se traduit aussi par un différentiel d'intérêt au niveau de la population de Bilbao. Tout le monde n'est pas gagnant dans cette affaire et c'est toujours le problème des grands projets que de mettre en lumière des intérêts stratégiques et d'en cacher d'autres. Hein. Ça, c'est tout à fait clair. L'autre réflexion que ça m'inspire, c'est que bon, on peut focaliser sur Bilbao, c'est un centre d'art contemporain, un geste architectural, urbain, etc. Mais il y a beaucoup d'autres succès locaux qui sont dans d'autres secteurs d'activité de la culture. Par exemple, si on prend le cas du festival Jazz in Marciac, c'est peut-être une réussite encore plus éclatante de la capacité de la culture à produire un développement territorial. Puisque, en l'occurrence ici, à partir de quelques jours l'été, puis de plus en plus de jours d'ailleurs, jusqu'à 3 semaines à peu près, on crée un écosystème qui dure toute l'année.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir effectivement les retombées économiques et des retombées économiques pérennes ou non. Et là, il faudra effectivement faire la différence entre d'un côté la création de musées avec un geste architectural spécifique ou la création de festivals. On va revenir là-dessus, mais peut-être qu'on peut d'abord expliquer, Maria Gravary-Barbas, l'importance du tourisme pour redynamiser tout un territoire. C'est le principal enjeu économique en termes d'attractivité parce que c'est une manne en termes d'emplois directs et indirects.
Le tourisme, effectivement, devient une réalité aujourd'hui pour des villes qui ne s'étaient vraiment pas posé la question il y a quelques années ou quelques décennies. C'est ça qui est formidable quelque part, que finalement ces politiques ne sont pas aujourd'hui l'exclusivité de certaines villes qui ont été placées dans ce marché de la culture et du tourisme depuis fort longtemps, mais aujourd'hui elles concernent véritablement l'ensemble des villes. De nouveau, il ne s'agit pas de dire que tous les cas de développement touristique ou culturel sont réussis. Il s'agit de dire que toutes les villes ambitionnent véritablement de se positionner parce que toutes, elles ont en tête les retombées positives du tourisme et de la culture, d'ailleurs de plus en plus, vu de façon articulée, puisque il n'est pas possible aujourd'hui, voire même pas souhaitable, de dissocier les deux. On sait qu'on est dans une logique de continuité des publics et que finalement, imaginez qu'on cible telle ou telle activité que pour un public local ou que pour un public touristique, parfois devient un peu compliqué et inapproprié.
Mais concrètement, à quoi ça ressemble la valorisation d'un patrimoine? Est-ce que c'est la valorisation d'un patrimoine existant, la création d'un nouveau patrimoine?
Ce qui est formidable aussi, c'est qu'on a des cas de figure qui sont très différents. On a d'une part des villes qui, en fait, valorisent un patrimoine qui est, je dirais, monumental, qui est relativement classique, qui a éventuellement toujours été là, mais auquel on n'avait pas porté l'attention suffisante. Et il y a aussi d'autres villes, et vous me permettrez de reprendre l'exemple du Havre qui me semble assez extraordinaire, qui regardent pour la première fois un patrimoine qui n'avait jamais été regardé comme étant du patrimoine, et qui devient patrimoine parce que les regards, finalement, qui est porté vers cette ville nouvelle, changent radicalement. Et vous avez aussi des villes qui inventent, finalement, des nouveaux créneaux sur lesquels elles peuvent éventuellement se positionner. Et le fait que la notion elle-même du patrimoine a énormément cheminé, s'est énormément diversifié et couvre aujourd'hui des réalités fort diverses, permet effectivement aux villes de développer aujourd'hui des projets très divers.
Vous avez parlé du Havre, je vous propose justement de nous y rendre.
Voyez-vous, quand on revoit le Havre reconstruit, c'est cependant une belle œuvre. On a l'impression d'un masque qu'on aurait mis sur un visage.
Oui, enfin, vous savez, le temps et la nature se chargent d'enlever les masques.
Oui, je sais bien, la patine. Mais pour le moment, c'est un masque de plâtre et de béton. Heureusement, il y a tout de même le Havre éternel, la courbe de la Seine, la courbe de la Rade, une des plus belles du monde, vous savez. Et ce cap de la Hève avec la pique de la falaise que couronne Notre-Dame-des-Flots, la petite chapelle, pleine d'ex-voto. Et le pain de sucre, le fameux pain de sucre, autrefois signal de danger. Et le phare, Voilà le havre d'éternité. Et celui-là, on ne peut pas le toucher.
Une archivina de 1955. Le Havre, largement détruit pendant la guerre, a finalement été inscrit en 2005 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment la ville a-t-elle obtenu cette reconnaissance, Maria Gravary-Barbas?
Avec un travail extraordinaire de reconnaissance justement de ce patrimoine. Évidemment, une énorme volonté politique, puisque dans les cas du Havre, cette reconnaissance du patrimoine n'a pas du tout été faite, comme on pourrait dire, bottom-up. Elle a été une décision politique qui a été accompagnée par un des experts qui ont écrit ce nouveau storytelling, finalement, sur le patrimoine du Havre, le patrimoine Perret, cet architecte extraordinaire du XXe siècle, et qui ont donc progressivement amené à ce changement du regard. C'est assez paradoxal le fait qu'au Havre, ce changement est venu plus facilement de l'extérieur que des Havrais eux-mêmes. L'adhésion de la population locale a été beaucoup plus longue. Elle reste toujours en partie incertaine, même s'il y a effectivement des progrès qui sont tout à fait considérables.
Et est-ce que c'est
donc une volonté politique essentiellement?
C'est un projet qui a permis de redonner un souffle à la ville, parce qu'on sait que c'est une ville qui est particulièrement en déshérence, Maria Gravary-Barbas.
Alors, je ne sais pas si elle est en déshérence, je ne dirais pas cela, mais c'est vrai que c'est une ville qui a connu d'énormes difficultés, notamment
à partir
des années 70, tout à fait. Oui, je pense que cela a donné véritablement un souffle. Le Havre, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quand même une reconnaissance extraordinaire. Le Havre devient aujourd'hui l'une des très peu nombreuses villes modernes, avec Tel Aviv, avec Brasilia, qui sont inscrites sur cette liste, on sait, extrêmement prestigieuse.
Mais est-ce qu'on peut mesurer l'attractivité? Est-ce que cette attractivité a augmenté depuis cette reconnaissance?
Alors, mesurer l'attractivité signifie de mesurer, enfin de se donner d'indicateurs précis, et de mesurer en fonction de ces indicateurs. Sur le plan du tourisme, oui, évidemment, il y a eu des évolutions qui sont tout à fait notables. Cela dit, quand on part de bas, pouvoir augmenter, en fait, la fréquentation touristique n'est pas en soi un exploit. Mais ce qui est formidable, je trouve, avec ces projets, indépendamment, finalement, d'aspects quantitatifs, qui sont importants, hein, il ne s'agit pas de les négliger. Ce qui est très important, c'est qu'ils tendent à mettre les villes qui portent ces projets dans une sorte de trajectoire vertueuse. Elles fédèrent, elles mettent en place une nouvelle gouvernance, donnent un objectif, et permettent finalement de construire un projet qui, sans ces regards de l'UNESCO, sans éventuellement un événement majeur type capitale culturelle européenne, aurait sans doute du mal à fédérer et aurait du mal à respecter aussi quelques urgences et quelques délais. Donc, indépendamment finalement de la réussite, quelle qu'elle soit et de quelle façon qu'elle soit mesurée, je pense qu'on peut considérer que l'inscription au patrimoine mondial du Havre et la reconnaissance de ce patrimoine a déjà apporté énormément d'effets positifs.
Emmanuel Négrier, sur ces différentes mises en tourisme et sur le rôle politique qui est joué dans le cas du Havre, comme vient de le dire Maria Gravary-Barbas.
Oui, écoutez, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. C'est tout à fait important d'avoir à l'échelle de patrimoine qui peuvent être considérés au départ comme relativement négatifs ou l'objet de souffrances sociales, de pouvoir en faire des étendards de développement. Là, en l'occurrence, c'est la reconsidération esthétique aussi de ce patrimoine immobilier qui a joué énormément. Mais on trouve aujourd'hui en France beaucoup de villes qui sont en train de s'interroger à ce sujet.
Lesquelles, par exemple?
Je prends par exemple des villes comme Arles, des villes comme Béziers, à sa manière, qui disposent d'un patrimoine urbain tout à fait important, mais dont la capacité de développement est aujourd'hui tout à fait en question. Et dans un certain nombre de situations, je pense à des passés industriels récents qui sont encore aujourd'hui l'objet de souffrances, il est difficile de faire patrimoine, non pas pour des raisons de ressources économiques ou de volonté ou de gouvernance, mais tout simplement parce que symboliquement, pour faire patrimoine, il faut qu'il y ait quelque chose qui meure. Et quand les gens souffrent encore de ce qui s'est passé, eh bien, cette mort n'est pas certaine. Et il y a des cas, même quelquefois des cas tout à fait surprenants, hein, comme par exemple la mémoire Négrier à Nantes. Ce n'est pas un jeu de mots ni une facétie, hein, mais des chercheurs ont travaillé là-dessus, qui montrent que dans les années 90, encore à Nantes, il était très difficile de créer des monuments à la mémoire de cette de ce passé historique particulier.
Une mémoire douloureuse que l'on peut peut-être retrouver alors de façon très récente, mais à Calais par exemple, avec une ville qui cherche à faire oublier un petit peu la jungle de Calais et ce camp où les migrants vivaient dans des conditions atroces. Maria Gravary-Barbas, cette question de la mémoire, elle est fondamentale ?
La question de la mémoire est essentielle et c'est tout à fait vrai que si on ne fait pas les deuils, si on ne tourne pas la page, cette construction patrimoniale est extrêmement difficile à faire. L'exemple de Nantes qui a été évoqué me semble effectivement, Emmanuel le disait, un exemple tout à fait passionnant parce que on voit le temps que cela a pris depuis les premières discussions sur la question et c'est très long mûrissement jusqu'à ce que quelque part la ville arrive à faire de façon totalement ouverte sa repentance d'une certaine façon. Et donc la monumentalisation, la patrimonialisation et tout un ensemble de projets construits sur ces mémoires ne peuvent voir le jour qu'après. Donc c'est vrai que pour Calais, ces mémoires sont extrêmement récentes. Elles sont très récentes, trop récentes, pour qu'il y ait une construction.
Aujourd'hui, il y a un enjeu de labellisation qui est très important. On parlait de cette reconnaissance de l'UNESCO qui fait l'objet en général d'une campagne active. Il faut du lobbying pour obtenir la reconnaissance, Maria Gravary.
Il en faut. Il ne faut jamais imaginer que c'est l'UNESCO qui s'épanche sur le sort de tel ou tel site, ville ou territoire. C'est toujours quelque chose qui émane des territoires, qui évidemment est porté in fine par les États membres de l'UNESCO, mais la démarche qui émane des territoires, des villes, des régions, est de plus en plus importante et nous avons des cas extraordinaires. On a parlé du Havre, mais je pense qu'il faut ici évoquer également les cas du bassin minier, qui est pour moi une reconnaissance patrimoniale donc par l'UNESCO, véritablement extraordinaire, paradigmatique, dans la façon dont un territoire qui a été véritablement marqué pendant plusieurs siècles par l'industrie, non pas tourne la page, mais construit finalement sur ce passé qui, jusqu'à maintenant, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, est parfois difficile à construire. Et comment, sur ces restes des usines, des lieux d'extraction, comment aujourd'hui se construit un nouveau projet patrimonial et territorial? C'est ça qui est véritablement formidable.
Mais cette mise en tourisme peut provoquer aussi des résistances, comme on l'entend dans cet archive de 1979 que je voudrais vous faire entendre. Les pêcheurs du Conquet s'opposent fermement au projet de transformer le port de pêche en port de plaisance.
Oh ben c'est logique. Quand on vous marche sur les pieds, quand même, y a toujours une réaction. Quand même.
Pourquoi on vous marche sur les pieds s'il y a des gens qui viennent?
Si on nous foutait dehors, que voulez-vous que c'est là, hein? Ben oui, parce qu'au lieu, on nous marche sur les pieds, c'est-à-dire qu'ils prévoyaient de nous reclasser, de nous reconvertir là-bas pour briquer les plates. Alors vous comprenez comme c'est attrayant.
Enfin, l'été, quand même, il y a des touristes ici, il y en a pas mal.
Ah oui, bien sûr.
Et puis, on peut dire que le Conquet vit un peu du tourisme aussi,
oui,
en partie.
Et puis, on n'est pas allergique aux touristes, au contraire, hein. Il y a des limites en tout.
Ce qu'on appelle valorisation du patrimoine, concrètement, pour les habitants, c'est parfois toute une série de désagréments, Emmanuel Négrier.
Oui, bah alors là, on est dans le cas typique d'un conflit d'usage. On a un espace qui est approprié historiquement, qui prend une valeur qui attire d'autres populations, qui entendent capter une partie de cet espace, et ça crée un problème. On trouve d'ailleurs l'histoire suivante. Se passe à Montréal avec le dit quartier des artistes. On a un quartier des artistes qui devient hyper valorisé sur le plan immobilier parce qu'il y a eu des artistes, parce qu'on est dans un quartier bourgeois bohème qui est très attractif pour de nouvelles populations relativement fortunées. Mais le problème, c'est qu'à force de monter, la spéculation immobilière dans ce quartier est telle qu'il n'y a plus d'artistes. Autrement dit, les artistes ont été, un peu comme le pêcheur de tout à l'heure, les adjuvants de l'attractivité économique locale, et paradoxe absolu et injustice absolue d'une certaine manière, ils sont chassés de ce à quoi ils ont contribué à la valeur.
Il faut effectivement souligner, Maria Gravary-Barbaz, les fortes hausses, par exemple, des prix des loyers que peut entraîner ces initiatives culturelles.
Absolument. Je pense qu'il y a deux choses dans le reportage que nous venons d'écouter. Il y a aussi cette méfiance qui, aujourd'hui, d'une certaine façon, n'est pas aussi forte par rapport à tous ces nouveaux emplois qui pourraient être créés par la culture et le tourisme. Pendant longtemps, ces territoires qui ont été des territoires ouvriers, des territoires portuaires, imaginez que ces emplois dans le port et dans l'industrie puissent être remplacés par des ports, par des emplois dans la culture et le tourisme était quelque chose qui n'était pas compris. Je pense que là, il y a effectivement des véritables évolutions et on comprend que de toute façon, aujourd'hui, c'est dans ces secteurs-là que plusieurs choses pourraient être jouées. Pour revenir à votre question sur effectivement l'évolution de certains territoires, c'est tout à fait vrai. C'est le cas à Montréal, c'est le cas finalement dans la quasi-totalité de tous ces centres-villes qui ont été découverts, comme on dit très souvent, entre guillemets, par des artistes, les bohèmes, les bourgeois bohèmes, etc. Et qui, en fait, sont d'une certaine façon tués par leur propre attractivité, puisque in fine, ils attirent un public qui est beaucoup plus large. C'est l'histoire qui commence dès les années 1960 à Soho, à New York, où en fait cet extraordinaire patrimoine qui est d'abord reconnu par les artistes qui y trouvent refuge, qui trouvent les conditions vraiment nécessaires pour l'exercice de leur travail, et bien finalement devient l'attractivité même pour d'autres couches de la population qui ont les moyens d'y accéder et qui ont malheureusement les moyens de déloger les artistes. Aujourd'hui, ce qui a également tendance à changer, c'est que peut-être pour la première fois d'ailleurs, les villes commencent à s'épancher réellement sur les moyens qu'elles ont pour contrôler ces tendances.
À donc travers sortir un peu, le contrôle des prix du loyer,
contrôle des prix d'immobilier, à travers le contrôle aussi du marché pas immobilier en général, mais du logement, qui devient une véritable question. Ce qui concerne évidemment donc ces exemples que nous avons évoqués à New York et à Soho, mais qui concernent aujourd'hui toutes les villes touristiques, du fait notamment de la concurrence entre les marchés immobiliers, notamment pour le logement principal, et les plateformes locatives type Airbnb, etc.
MARSEI2LE est à la U. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville? Celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nourrir, indomptés, génération du crabu. Ma ville entière a sombré, soumise, ombré pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refait à notre insu. Petit déliment, je longue peine aux gommettes ou à l'une. Pour pas grand chose, dorénavant, on te fera tuer. Qu'est-ce qu'est venue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la vie du bled. Paraît que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui souffre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Aux colons de la belle cité de Fossé, tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours assemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de roi. MARSEI2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien hip. Chaque des cultures 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ce qui reste, esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système. Tant qu'à jouer pire, qu'est-ce que les miens vont devenir? Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. La zone c'était pas que livrée. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car la vie cesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la selle ici c'est dans le chine. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavanent les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture.
capitale de la rupture de Kenny Arcana sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Emmanuel Négrier et Maria Gravary Barba sont toujours avec nous pour parler de la culture comme outil de développement des territoires. Alors Marseille était capitale européenne de la culture en 2013. Je vous propose d'écouter à ce propos Macha Makaïev, directrice du Théâtre National de Marseille, et Élodie Lebreut, chargée de l'aide aux musiques innovatrices sur la friche de la Belle de Mai.
La cible, c'est de tracer tout un itinéraire d'art et de culture dans cette ville et dans ce territoire. C'est aussi le message de dire, au fond, il y a ici et là, pas très loin de chez vous, un théâtre, un musée. Vous n'osez peut-être pas entrer, mais poussez la porte, c'est chez vous.
On met l'accent sur la culture hip-hop parce que c'est un lieu historique de la culture hip-hop à Marseille. Beaucoup de groupes emblématiques sont nés ici, IAM, La Funky Family et j'en passe. Et c'est aussi un lieu aujourd'hui où les jeunes viennent danser, viennent faire du skateboard, viennent graffer les murs qui sont encore disponibles.
Maria Gravary Barbas, l'objectif en réhabilitant des lieux comme la friche de la Belle de Mai à Marseille, c'est d'attirer de nouveaux publics qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les musées.
Oui, en fait, la friche de la Belle de Mai est un projet assez extraordinaire, tout à fait novateur, une des premières friches culturelles, comme on dit en France, qui a été donc créée à Marseille et qui a, comme cela a été dit, joué un rôle tout à fait important, essentiel dans les projets de la capitale culturelle européenne, Marseille 2013.
Mais est-ce que ça marche? Est-ce que vraiment on a des publics qui ne sont pas habitués des lieux culturels, qui entrent dans ces lieux? Macha Makaïev parlait aussi du Théâtre National de Marseille.
Oui, j'estime que ça marche. Après, encore une fois, c'est une question d'indicateur, de la façon dont on mesure ce que cela veut dire marcher et pas marcher. Je pense que la friche a effectivement joué son rôle, a décloisonné, a pu permettre à certains publics qui étaient réfractaires de la culture de pouvoir y accéder. Après, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux? Oui, certainement. C'est vrai que quelque part, par rapport à des objectifs qu'on peut imaginer, on pourrait imaginer que les choses pourraient se dérouler de façon beaucoup plus satisfaisante. Mais il y a une chose qui doit être dite ici. Ces projets, quels qu'ils soient, que ce soit un projet en nature touristique, que ce soit un projet comme la friche de la Belle de Mai, qui, elle, cible justement cette ouverture culturelle plus transversale. Imaginez qu'un projet, un seul projet, puisse être la panacée totale et qu'il puisse répondre finalement à des maux parfois chroniques d'une ville, c'est un peu naïf. Mais c'est ce qu'on oublie très souvent.
Est-ce que cela ne dépend pas tout de même du type de projet, Emmanuel Négrier? Certains projets permettent d'attirer des publics qui d'habitude ne se rendent pas dans des musées, au théâtre, et peut-être que d'autres projets y arrivent moins.
Si vous voulez, cette question-là, c'est toute la question de la festivalisation, par exemple. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les difficultés. Hein. Croire qu'en créant une friche avec une programmation aussi diverse soit-elle, permet de résoudre le problème social du rapport à la culture, qui est un problème sociologique structurel, c'est un petit peu se bercer d'illusions. Mais il est vrai que quand on regarde les programmations festivalières, et qu'on regarde en particulier les programmations qui sont destinées à attirer des publics qui ne vont pas forcément assister à des concerts dans l'année, eh bien, on constate effectivement à la fois un renouvellement des publics tout à fait impressionnant par rapport à l'image qu'on a d'une culture qui sert toujours les mêmes. Hein, quand on a, au bout de 25 ans, aux Eurocaines de Belfort, 39% de nouveaux publics sur place, on se dit qu'il y a quand même une capacité de renouvellement tout à fait considérable. Et quand on regarde le profil social des nouveaux publics, on se rend compte systématiquement qu'il s'agit à la fois de générations beaucoup plus jeunes et en même temps de profils sociaux beaucoup plus diversifiés. Autrement dit, s'il y a un problème social et sociologique d'accès inégal à la culture, ce problème-là ne crée aucune sorte de fatalité, mais au contraire est un aiguillon sérieux pour des politiques publiques orientées vers ces nouvelles pistes sociales.
Ça, c'est lié au fait qu'il y a maintenant une très grande diversité de festivals, étant donné que le nombre de festivals a explosé en France depuis quelques années.
Oui, il a explosé à la faveur de ce qu'on peut appeler une festivalisation généralisée, puisque même des lieux comme des salles de musique actuelles, les SMAC, qui sont des lieux à programmation annuelle, deviennent des lieux qui créent des événements, qui créent des petits festivals. Autrement dit, on est passé sans doute en 30 ans de 600 à 6000 festivals en France si on considère l'ensemble du domaine des domaines artistiques. Et effectivement, dans un premier temps, on dit c'est un formidable levier de développement territorial, de création d'images, etc. Si on rentre un peu dans la machine, on se rend compte aussi que des festivals, c'est aussi beaucoup de bénévoles, c'est aussi beaucoup de partenariats d'intérêt général avec ici les Restos du Cœur, ici la Fondation Abbé Pierre, là des centres d'information sur l'environnement et les risques climatiques. Autrement dit, ça commence à devenir des opérateurs d'intérêt général qui drainent avec eux une vision très extensive de ce qu'on appelle le développement territorial. Ce n'est pas que le développement économique, c'est aussi beaucoup de choses tout à fait nouvelles et intéressantes qu'on est en train d'étudier dans un programme qui s'appelle SOFEST, coordonné par France Festival.
Eh bien justement, prenons, si vous le voulez bien, la direction des Eurockéennes de Belfort.
Quand on dit les chiffres, on parle souvent d'affluence, donc c'est à peu près 130 000 personnes, un peu plus certainement cette année. Il y a une soixantaine d'artistes, il y a quatre scènes en fait, avec des univers très différents. On est 9 à l'année, on est 5000 à le construire en ce moment. Du coiffeur jusqu'au menuisier, du fleuriste jusqu'au plombier à peu près. Et puis c'est un budget d'environ un peu moins de 9 millions d'euros. La chose qui nous préoccupe le plus, c'est de savoir finalement de rester un objet de modernité. C'est-à-dire que finalement les jeunes générations ne se disent pas « je vais pas y aller parce que c'est le truc de vieux con où mon père allait quand il avait 20 ans par exemple ». Mais en fait, ce qui nous a intéressé, c'est que finalement on a toujours on a suivi le parcours des Eurockéennes. Les Eurockéennes ont toujours accordé une grande place finalement aux découvertes, aux jeunes pousses, tout ça.
Jean-Paul Roland, directeur du Festival des Eurockéennes de Belfort. Qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuel Négrier ?
Ça m'inspire un retour d'abord sur notre toute première conversation. Le territoire de Belfort en 1987, avant que germe l'idée d'y créer un festival, rien ne le prépare à devenir un des spots européens du rock et puis plus généralement du live dans tous les domaines artistiques qui ont été proposés. Ce qui est tout à fait intéressant dans l'histoire des Eurockéennes, c'est aussi l'histoire de certains échecs. Par exemple, de programmation pour lesquelles les Eurockéennes pensaient forcément attirer des publics des quartiers, puisque c'était Jay-Z, par exemple, en 2010, c'était programmé quelqu'un qui était écouté toute la journée dans les quartiers difficiles de Mulhouse, de Belfort et de Montbéliard.
Et ça n'a pas marché.
Mais ça n'a pas été une raison pour les Eurockéennes de renoncer. Au contraire. Mais de prendre des choses différemment. Et puis, ce qui est très intéressant dans le cas de ce festival, c'est que, on a là un festival sur 3 jours, quelquefois 4. On pourrait se dire, une semaine avant, l'équipe arrive, une semaine après, la dernière date, tout le monde est parti, et à l'année prochaine. Et on se rend compte, en fait, que c'est un opérateur qui devient de plus en plus permanent sur le territoire. Il organise un autre festival depuis quelques années, il prend en charge la programmation d'une salle, et ainsi de suite. Et il devient comme ça, à la fois pour les publics du territoire de Belfort, le moment clé d'identification au territoire, la fierté absolue. Les enfants qui ont 12 ans, qui viennent avec leurs parents, ne rêvent que d'une chose, c'est d'en avoir 14 pour pouvoir venir enfin tout seul. Et certains, même habitants du territoire de Belfort, prennent leur tente pour aller camper au camping des Eurockéennes. Donc il y a une sorte d'émulsion de petite république éphémère, comme on l'a écrit en étudiant les Eurockéennes de Belfort, qui se reproduit d'ailleurs dans d'autres festivals. Ça n'est pas le cas particulier de ce festival-là.
Mais effectivement, l'enjeu, c'est de le pérenniser. Et là-dessus, Marie Gravary-Barba, ce n'est pas forcément évident, parce que le festival est circonscrit dans le temps. Et ce n'est pas forcément évident de faire en sorte que d'autres actions se déroule à l'année.
La question de la pérennisation, de la durabilité finalement, de la soutenabilité des événements est, je pense, la question capitale de tous ceux qui les organisent. Après, il y a plusieurs possibilités pour voir cette chose-là, à la fois par rapport à la durabilité d'un seul événement. C'est le cas des Iroquois qui effectivement ont traversé plusieurs décennies en fait et qui se maintiennent, je pense, en très bonne forme. Mais ça peut être aussi la question de la durabilité d'un milieu qui est lui-même susceptible d'organiser plusieurs types de propositions qui peuvent être très différentes, voire même totalement éclectiques, mais qui à chaque fois capitalisent sur un savoir-faire, sur une technostructure existante, sur un accompagnement politique. Et je pense que l'exemple des Nantes correspond plutôt dans cette configuration-là, c'est-à-dire pas forcément des événements qui sont eux-mêmes des très grandes durées, mais un milieu local qui, depuis maintenant plusieurs décennies, a réussi à mettre en place tout un ensemble de propositions vraiment innovantes et parfois même des propositions qui ont joué un peu le rôle de modèle, qui ont pu être exportées ou adoptées par d'autres villes.
Emmanuel Négrier.
Oui, sur la question, je rebondis sur la question de la pérennité. Parce que c'est effectivement la pérennisation dans l'année qui est en question pour ce genre de festival, mais c'est aussi en ce moment la pérennité économique, parce que le contexte actuel est effectivement celui de l'explosion des festivals, de festivals qui sont très massivement des festivals non lucratifs, hein, ils sont associatifs pour plus des deux tiers. Et ces festivals indépendants, eh bien, ils affrontent aujourd'hui les stratégies de grands opérateurs économiques multinationaux qui sont multicartes et qui influent de plus en plus. Donc la question de la pérennité de ces festivals indépendants, les Vieilles Charrues, les Eurocaines de Belfort par exemple, c'est aussi la question de leur capacité de résistance à l'égard de ces grandes multinationales du divertissement.
Surtout qu'il est particulièrement difficile d'évaluer la réalité des retombées économiques, comme vous le disiez, avec beaucoup de bénévoles. Quels sont les outils dont on dispose pour savoir si vraiment le territoire en profite ?
Alors, les outils qu'on a, sans rentrer dans une analyse des querelles entre économistes à ce sujet, en gros, il y a trois manières d'apprécier les retombées économiques d'un festival, par exemple, mais pas seulement d'un festival. Hein. Premièrement, c'est les retombées directes, c'est-à-dire celles qui résultent de l'activité même de l'opérateur culturel. Il a des dépenses, des dépenses qui se font sur le territoire, et donc ça vient développer les affaires sur le territoire. Et ensuite, les dépenses qu'accomplissent les visiteurs, les festivaliers par exemple, ou les visiteurs d'un musée sur place à l'occasion de leur passage, ça on peut l'estimer aussi. Et puis il y a ce qu'on appelle les retombées induites, c'est-à-dire toute cette économie qui est engendrée, elle crée des emplois qui eux-mêmes ont un impact économique positif sur le territoire. Donc ça, c'est les trois clés ou les trois instruments de mesure ou d'estimation des retombées économiques territoriales. Il faut dire immédiatement que ça n'est pas évident de faire ce calcul parce que on est conduit à se baser beaucoup sur des déclaratifs, hein, sur des déclarations de personnes. On sait aussi par la négative que quand un événement n'a pas lieu, ça crée des externalités extrêmement négatives et la crise des intermittents du spectacle de 2003 a été une démonstration très très éclatante de l'impact économique de la culture quand la culture n'est pas là. Mmh. Avignon par exemple. Hein? Alors après, il faut faire attention à la valorisation de ces retombées économiques parce que ça n'est pas de l'économie au sens de l'économétrie stricte. Quand vous avez un rapport très positif entre 1 euro de subvention accordée et 10 euros d'activité économique sur place générée, ça n'est pas pour autant que ce que vous avez subventionné vous est rentable, vous, en tant que pouvoir local. Mmh. Hein, puisque la rentabilité stricte, ce serait de dire le retour en fiscalité sur cette activité économique est supérieur à la subvention que j'ai accordée. Or ça, c'est très rarement le cas.
Alors c'est important ce que vous soulignez effectivement Emmanuel Négrier, et puis vous avez parlé aussi du choc qui pouvait intervenir entre des festivals indépendants et des projets plus commerciaux, entre des projets culturels venus d'en haut qui se heurtent parfois à des projets locaux.
Je suis Raphaël Vernat, je suis coordinateur programmateur du Café de l'Espace. C'est une association, un café associatif au milieu de nulle part, à Flaya, une toute petite commune. Donc on fait des concerts, 40 concerts par an. Ça peut monter au-delà. Les mecs de Guéret disent que Flaya, c'est le fin fond de la Creuse. Mais on est fiers d'être au fin fond de la Creuse. En 2017, nous apprenons qu'il va y avoir un gros festival au 13-14 juillet à Guéret, dans une petite commune sur un ancien aérodrome. Et ça tombait exactement la même date que lorsque nous faisons notre mini-festival. Donc le mini-festoche, c'est 3 jours de concert non-stop au Café de l'Espace. Et on apprend qu'il va y avoir El Clandestino, gros festival avec des têtes d'affiche, Manu Chao, Chinese Man, Morkiba, enfin voilà, du très très gros lourd. Et que les personnes qui organisent expliquent qu'ils amènent la culture en Creuse.
Ils amènent la culture en Creuse, alors c'est forcément quelque chose qui peut être très mal pris par des projets locaux. Emmanuel Négrier, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage qui est extrait d'un documentaire des Pieds sur Terre ?
Alors là, c'est tout à fait intéressant, hein, parce que ce genre de choses arrive souvent. Quand on regarde les festivals, je dirais la grande majorité évite ce genre de situation parce que les festivals sont souvent d'abord des histoires locales. Contrairement à des politiques culturelles qui sont quelquefois labellisées, le fruit d'initiatives du ministère, puis des pouvoirs locaux, etc. Un festival, c'est souvent une association qui porte un projet qui est reconnu par les collectivités territoriales. Mais en ce moment, on voit apparaître par le haut, pas forcément d'ailleurs par les pouvoirs publics, mais par des pouvoirs privés, des initiatives clés en main. On a vu ce genre d'initiative dans la région parisienne, Val d'Europe, avec un projet Val d'Europe conçu clé en main pour être dès la première année un triomphe avec 60 000 spectateurs, etc., etc.
En général, ce sont des festivals de musique qui sont plus rentables.
Oui, oui, tout à fait. Mais un projet qui s'est complètement cassé la figure, parce que finalement, le terreau local. La société locale qui porte ce genre de projet, elle était totalement absente. Alors que ce que vient de dire votre interviewé dans la Creuse à Guéret, c'est qu'il y a effectivement là une existence locale, un projet social local qui est mis en concurrence avec un projet clé en main. Donc là, effectivement, une belle contradiction.
Maria Gravary-Barbas, les projets culturels qui marchent le mieux, ce sont ceux qui associent les habitants, les locaux.
Oui, clairement. Et clairement, ce sont ceux qui marchent les mieux par rapport aussi à un objectif et qui est, tout d'abord, celui d'associer les habitants locaux. Parce que c'est un objectif en soi, indépendamment, finalement, des quelques retombées économiques ou autres.
De créer du lien social, de créer une identité d'un territoire.
De faire en sorte à ce que le territoire prend conscience, en fait, d'un potentiel local, de la façon dont il peut aussi le mettre en syntonie avec le reste du monde. Donc, ceci est effectivement très souvent une condition. C'est une condition pour la culture, c'est une condition pour le tourisme. On ne connaît pas véritablement des cas, des réussites touristiques qui ont pu voir le jour sur tel ou tel territoire sans que la population locale ne les accompagne pas, au moins jusqu'à un certain niveau. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est nécessaire.
Emmanuel Négrier.
Oui, j'ai envie de dire que cette question que vous posez sur l'importance de l'ancrage local, elle est très importante aujourd'hui parce que nous avons atteint sans doute un âge des politiques culturelles qui a très fortement fonctionné selon une politique de l'offre néo-keynésienne. On crée des équipements, des grands équipements, des gros labels avec l'espoir que la demande suive. La demande a suivi, en partie, contrairement à ce que tout le monde raconte. La demande a suivi, mais la demande aujourd'hui s'émancipe de simplement répondre à cette offre. Elle crée ses propres demandes, elle crée ses propres collectifs, elle crée ses propres appétences pour la culture, de sorte que finalement, grâce à cette période néo-keynésienne, on a en France, par rapport à beaucoup d'autres pays, beaucoup d'équipements culturels et d'initiatives culturelles publiques. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la société. Et le temps de la société, il implique qu'aucun projet culturel d'envergure ne se crée sans la population locale.
Mais cela pose la question des financements de ces projets. Où trouver de l'argent ? Est-ce que ça ne passe pas de plus en plus par le mécénat des entreprises, Emmanuel Négrier ?
Alors si, on voit se développer le mécénat d'entreprises, les fondations, les fonds de concours divers et variés, effectivement. On revient aussi sur certains espoirs. Hein. Le mécénat d'entreprises fonctionne sur une logique qui n'est pas du tout celle de la subvention. Et les acteurs culturels l'apprennent à leur détriment, parfois, en se rendant compte que finalement, un mécène peut arriver, mais il n'est pas obligé de rester. Il n'y a rien politiquement qui l'oblige à rester auprès d'un opérateur artistique. Et donc, quand au bout de 3 ans, il change de stratégie, l'opérateur artistique est dans une grande difficulté. Et puis l'autre constat qu'on a fait, c'est que le financement par la foule, ce qu'on appelle en bon français le crowdfunding, avec les Ulule et Kickstarter pour financer des projets par les gens, ça marche une fois, mais ça n'est pas pérenne non plus. Donc votre question de la pérennisation économique, elle est difficilement réglée par ces nouveaux fonds. Donc autrement dit, le mécénat, oui, le crowdfunding, oui, mais ça n'est absolument pas une alternative au financement public.
Ça reste minoritaire par rapport au financement des collectivités publiques qui restent, eux, largement majoritaires. Est-ce qu'on observe, sur cette question du financement, Maria Gravary-Barbaz, une sorte de répartition des types de projets culturels entre la ville, le département, la région? Qui prend en charge les différents types de projets?
On a de plus en plus de projets qui sont un montage complexe et qui associent effectivement un ensemble de partenaires.
Et beaucoup de partenariats publics-privés également?
Beaucoup de partenariats publics-privés et effectivement, en fonction des projets, mais cela dépend fortement de la nature des projets, la participation donc du secteur privé et du mécénat. Et c'est là où peut-être la question du tourisme intervient également, puisque une partie de ces projets ne peuvent fonctionner qu'avec des publics réellement élargis. Il est clair que plusieurs parmi ces projets, que ce soit les projets des musées, des festivals, d'un concert ou d'une autre activité, ne peuvent pas survivre juste avec la population du territoire. D'où cette ouverture qui est parfois effectivement une fuite vers l'avant pour associer des publics de provenances diverses. Les festivals de Chasse et Marciac qui étaient donc évoqués tout à l'heure, il n'est pas porté, en tout cas pour ces publics, par la commune, par le territoire lui-même, où la population est effectivement très limitée. C'est un festival qui a su drainer un public très important. Après, c'est quelque chose qui ne réussit pas toujours. Nous avons des exemples des festivals qui ont cherché pendant longtemps de faire en sorte à ce qu'il y ait une internationalisation. Celle-ci est parfois très incertaine.
On arrive presque au terme de cette émission. Une dernière question peut-être. À un mois des élections municipales, quelle place la culture prend-elle aujourd'hui dans la campagne électorale actuelle, Emmanuel Négrier?
Elle est très faible. Elle est très faible. Alors, pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons. Commençons par les bonnes raisons. Si cette place est faible, c'est que la culture ne clive pas beaucoup. Or, en fait, dans les campagnes électorales, les sujets qui sont le plus abordés, dont les équipes sont les plus friandes, ce sont les sujets qui clivent. Or, en fait, si vous abordez la question culturelle, bien souvent, vous allez tomber sur, finalement, un bilan qui est pas si mauvais que ça. Et en plus, raccordé à quelque chose de positif. Parce que, ne l'oublions pas, l'expérience culturelle, c'est toujours quelque chose de positivement vécu par les gens. Et puis, le deuxième point, c'est quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui pour inventer une nouvelle politique culturelle? Il faut regarder de près les listes plutôt participatives, municipalistes, qui envisagent justement cette prise du pouvoir par la demande pour voir émerger de nouvelles propositions. Sinon, pour les autres, je dirais, on est un tout petit peu dans le catalogue à compléter encore sans beaucoup de génie.
Les communes sont encore en quête de propositions. On va voir en tout cas toute cette semaine comment cette question du développement économique s'inscrit dans le territoire, du village à la métropole. Un grand merci à tous les deux. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine, bonjour à tous.
Après l'éviction, les questions. Si le départ annoncé de la directrice d'Engie, Isabelle Cochère, n'était plus une surprise, il réveille les incertitudes sur l'avenir du groupe et son rôle dans la transition énergétique.
Et oui, parce qu'Isabelle Cochère était et s'était étroitement associée à ce que le conseil d'administration appelle la transformation d'Engie, à savoir le désengagement des énergies fossiles et virage vers le renouvelable. C'est actuellement un quart de l'électricité produite par le groupe, mais aussi, deuxième axe de bataille plus implicite de ce groupe créé en 2008, de remonter ses performances boursières avec une cotation tombée au plus bas en 2017, un peu en reprise depuis, mais c'est vrai moins vite que le CAC 40. Il y a un an, le plan stratégique d'Isabelle Kocher devait répondre à ce double impératif, mais en même temps que les rumeurs de friction dans la gouvernance se sont multipliées celles sur le démantèlement, au point qu'on aurait pu croire qu'Isabelle Kocher était l'obstacle à supprimer pour y parvenir. Eh bien non, répond le spécialiste des énergies Jean-Marie Chevalier, il est professeur émérite à Paris Dauphine et membre du Cercle des économistes.
On peut discuter le fait d'avoir dégagé des activités gazières qui était un cash flow récurrent et sûr, mais en même temps, il fallait se dégager d'activités traditionnelles pour passer à cette idée de service et d'intelligence énergétique. Il faut relativiser les remarques du conseil d'administration. Moi, ce que je vois, c'est que la production d'électricité, c'est une activité qui devient complètement concurrentielle et on peut se procurer de l'électricité sans en produire forcément. À mon avis, là encore, il y a probablement des cessions à faire, mais globalement, Engie est dans beaucoup de métiers énergie ou proximité de l'énergie, et ça me paraît un atout fondamental pour faire face aux défis de la transition énergétique. Par rapport à EDF, qui est très impliqué dans le nucléaire, et qui est moins présent dans toutes les autres activités. Engie est présent encore dans les activités traditionnelles, gaz ou nucléaire en Belgique, mais est plus avancé dans le domaine des services, du conseil énergétique. Je pense que le contrat signé entre Engie et une université américaine, où Engie prend en charge toute la gestion des flux énergétiques, c'est quelque chose qui est reproductible pour d'autres contrats avec des entreprises ou avec des collectivités locales. Et ça me paraît aller tout à fait dans le bon sens.
Donc pour que tout reste comme avant, il fallait que tout change, le démantèlement d'Engie n'aura pas lieu.
Oh, alors là, on ne sait pas. Il y a d'un côté les hypothèses sur l'opportunité pour l'État de se désengager. C'est vrai que sa participation est assez haute, 23,6%, notamment se désengager de certaines infrastructures gazières et poursuivre le recentrage sur la partie commerciale. De l'autre, eh bien, ce sont les démentis farouches ces derniers jours de Bruno Le Maire et Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration. Mais même si cela arrivait, la grosse inconnue serait sociale, ce que n'avait pas soulevé Isabelle Kocher, en tout cas pour la transition énergétique, selon une étude PwC aujourd'hui, Engie se situerait à la moitié des performances de décarbonation des 24 grands groupes européens du secteur.
On passe aux brèves, des brèves en chiffres aujourd'hui. On commence avec ces 3% promis par Frédéric Vidal pour rassurer le monde de la recherche.
3% du PIB consacré à la recherche et développement, assure la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans une tribune à ses collègues, dit-elle, dans Le Monde. Manière de répondre aux inquiétudes et mouvements de démission et protestation dans le secteur de la recherche et plus largement universitaire. Secteur inquiet de la future loi de programmation pluriannuelle et de certaines mesures comme la disparition des maîtres de conférences, ces fameux maître de conf. Fausse nouvelle, comme les autres, dément en tout cas la ministre.
Et ce n'est pas 3%, mais 0,3% cette fois. C'est le rythme de la croissance française ce premier trimestre. Un léger rebond?
Oui, alors que le dernier trimestre avait déçu en révélant un repli de 0,1%, la Banque de France compte bien effacer cette mauvaise surprise, comme le dit son directeur François Villeroy de Galhau aujourd'hui en dévoilant ses prévisions. Si la baisse de la fin 2019 est attribuée aux grèves dans les transports, eh bien les bons indices du chômage et le climat des affaires laissent entrevoir ce même rythme de 0,3% jusqu'à la fin de l'année.
Et pour finir, 43 milliards supplémentaires, c'est ce que la Banque Centrale Chinoise vient d'injecter pour soutenir l'économie face au coronavirus.
43 milliards de dollars prêtés aux banques nationales et grandes banques locales dans 10 provinces afin de favoriser justement leurs prêts aux entreprises en période d'incertitude, avec une première injection donc de 173 milliards de dollars la semaine dernière. Ces 216 milliards de dollars au total sont sans doute une des interventions bancaires directes les plus massives sur une économie en temps de paix.
Merci Xavier et à demain.
Corps émietté, l'amour me fait l'amour. La mort s'était penchée en ombre d'une pierre qui coule. En velours écarlate, amuse-bouche de satin, en chair cousue des sangs, ces piqûres de métal.
On se quitte avec Louise Verneuil et son titre Love Corail. Merci beaucoup Maria Gravary-Barbas et Emmanuel Négrier de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On mettra toutes les références de vos ouvrages sur notre site internet franceculture.fr. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Montpellier qui ont permis ce duplex. Et merci enfin à la formidable équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Auvinet, Alain de Raucourt, à la réalisation Émilie Valla, aux manettes aujourd'hui Sylvain Latu. Demain, les métropoles détiennent-elles les clés de la compétitivité? On en parle avec le politiste Gilles Pinson et l'économiste Olivier Bouba-Olga. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.